Frères et sœurs, ouvrons la parole de notre Seigneur et puisons dans cette parole des enseignements précieux pour notre vie. J'aimerais lire deux textes parce que Béthanie, c'est toute une histoire. Premier texte, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 38. Luc 10, 38. Et on va retrouver la lumière devant les yeux du pasteur et je vais me pousser. Et voilà. Ça va? Ça va bien? De temps en temps, il faut que le père regarde si les enfants ont bien à manger. Hein. Alors, nous allons faire cette lecture magnifique que vous connaissez bien. Alors, il y a encore... C'est exceptionnel, c'est bien que la prédication ne soit pas dérangée, mais il y a encore à peu près 10 places sur le devant pour le service d'ordre. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» « Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Il y a encore une dizaine de places devant, je le répète, pour le service d'ordre. On va chercher la deuxième lecture, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et on va retrouver la petite maison à Béthanie, la maison des figues, Béthanie, chapitre 12. Vous avez compris que je parlais de Jean, hein. Jean, chapitre 12, verset 1er. Six jours avant la Pâque, on est dans les temps, hein, je crois que Pâques c'est bientôt, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers ?» pour les donner aux pauvres. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Que notre Église soit une Béthanie. Que notre famille, notre maison soit une Béthanie. Je vais vous donner quatre leçons de ce petit village, enfin, de cette maison de Marthe, Marie, Lazare. La première leçon, Jésus était reçu à Béthanie. Marthe le reçut dans sa maison. Vous connaissez l'importance du mot « recevoir » ? Pour se convertir, il faut recevoir la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçue, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus reçu. Il est reçu chez nous. Amen. Lui, le Créateur de toutes choses, devant lequel personne n'a de prétention. Lui qui n'était pas reçu par les officiels, par les siens en Israël. Lui qui n'avait pas où reposer sa tête. Il a été reçu chez Marthe, Marie et Lazare. Je pense que c'est une définition de l'Église. Jésus qui est rejeté dans le monde, nous le recevons ici. Amen. Mais cela va beaucoup plus loin. Ces commandements qui sont rejetés dans le monde, nous les accueillons dans nos familles et dans l'Église. Amen. Commandement sur la famille, commandement sur la fidélité, sur la vérité, sur la pureté, nous les recevons dans notre maison. Amen. Nous lui faisons la place d'honneur. Vous saviez que Jésus est un membre de l'Assemblée de Rennes ? Vous ne voulez pas qu'il soit membre de notre Assemblée ? Il en est la tête. Cela peut paraître simple, toutes ces paroles que je vous dis ce matin, mais cela nous conduit beaucoup plus loin qu'on le pense, si Jésus est reçu. Vous comprenez bien. Vous allez lui donner simplement un petit rendez-vous le dimanche matin. Certains viennent au culte une fois tous les deux mois. Est-ce qu'on va se contenter de lui donner quelques miettes de notre présence ? Le recevoir, ça va nous impliquer à avoir une maison toujours bien nette, du temps disponible, être attentif à ce qu'il aime. On ne peut pas lui donner ce qu'il n'aime pas. Le recevoir, cela veut dire qu'il va avoir une base ici. Il va avoir une base pour agir sur toute la ville. Le recevoir dans votre maison, cela signifie aussi qu'il va avoir un lieu pour toucher le cœur de vos enfants et de votre famille. Parce que ça commence par des petites choses, ça où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Quand un couple s'entend bien et prie, trouvez pas que c'est déjà, ça fait frémir l'enfer ? Trouvez pas que le royaume de Satan est ébranlé par ces petites choses, deux ou trois assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, quand deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, béni soit Dieu, amen. Ça part de la famille, ça. Ça parle de l'Église. Il faut recevoir le Christ pour, avec lui, préparer chez nos enfants un cœur bien disposé à recevoir l'Évangile. Il ne faut pas abrutir nos enfants de versets bibliques, bien sûr. Il ne faut pas étonner nos enfants par un comportement inadéquat, incohérent par rapport à ce qu'on entend dans l'Église. Quand on accueille le Seigneur, on lui dit que ton règne vienne. Que cette maison de prière soit ton état-major. Que tu trouves parmi nous et dans nos maisons des serviteurs fidèles qui t'attendent chaque jour, parce que tu as quelque chose à nous dire chaque jour, qui t'attendent à toute heure et qui sont en vêtements de travail. Nous t'attendons ce matin, Seigneur. Amen. Tu as quelque chose à me dire, à nous dire. Chaque jour, je dis au baptême, on prépare 22 baptêmes, et je dis aux baptisés, chaque jour, quand vous ouvrez la Bible, vous dites, que veux-tu me dire, Seigneur ? n'est pas une parole qui était pour Moïse, c'est une parole qui est pour vous. Amen. Que veux-tu me dire ? Le recevoir, c'est établir pas des règlements qui finissent par être des dictatures. Il ne faut pas que l'Église soit dans une dictature, il ne faut pas que le pasteur soit sous une dictature, il faut qu'il soit, que tout le monde soit dans la joie. Et je crois que pour accueillir le Seigneur, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas meilleur parfum. Vous avez vu Marie qui donne son parfum. Il n'y a pas meilleur parfum que l'amour fraternel. Vous dites amen ou pas? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Il faut donc que notre église, notre Béthanie, notre maison, soit un lieu où le Seigneur va habiter. Et dans le grec, c'est une habiter, ça veut dire résidence permanente. Ce n'est pas une fois à Pâques, tous les ans. Résidence permanente. Un marchepied pour lui. Une barque. Vous savez, les apôtres tenaient toujours à la disposition de Jésus une barque. Pour que, s'il avait besoin, il montait dans la barque. Nous sommes là, Seigneur. Nos bras, nos muscles, notre volonté, notre cœur. Et hop, on t'emmène faire un tour pour que tu prêches à la foule. Seigneur, on voudrait être la barque, pas vous? On voudrait dire au Seigneur cet après-midi, on va parler sur l'enfant prodigue, c'est une histoire faramineuse, magnifique, bouleversante. On voudrait être là avec nos mains sur les rames et puis pouvoir dire aux gens, écoutez bien le message de l'Évangile, le Seigneur va vous parler. Êtes-vous d'accord avec moi? Béthanie. Jésus allait souvent à Béthanie. Parce que c'était toujours Marthe, Marie, Lazare, c'était une belle famille. Il était chez lui. Il devait arriver à toute heure du jour, toute heure de la nuit, j'imagine. Je pense que l'ennemi est dans une grande colère. Quand l'Église veut être une Béthanie, un lieu d'accueil où Jésus est toujours bien accueilli. Je pense que l'ennemi de nos âmes préférait que l'Église soit un lieu de passage, de mouvement où on ne se connaît pas, on ne se salue pas. Vous savez, je ne dis pas ça, on va arriver à Pâques pour célébrer dans la joie la fête de la résurrection de Jésus et notre résurrection. Amen. Mais quand on arrive en retard, moi je pense que le diable se réjouit parce qu'il se dit, ben ça va perturber le culte, ça va... Ils ne vont pas recevoir, ils ne sont pas préparés, ils vont arriver au fromage, donc ils n'auront pas eu l'entrée, etc. Bon. Je pense que le diable est vraiment très heureux quand tout se désorganise. Il faut que nous soyons des serviteurs qui sont vraiment attentifs pour être proches de chacun, du commencement à la fin, établis sur les biens de la maison de Dieu, dans les paraboles. Établi sur les gens de la maison de Dieu. Pour que la maison de Dieu soit un bel assemblage, où chacun est à son poste, où le Samaritain peut venir avec un blessé sur son âne, il a un blessé là, je vous amène quelqu'un qui va mal, dépressif, triste, mais l'église est là, l'hôtelier est là, Béthanie est là, l'église Béthanie, puis s'il y a un jour un malheur, Lazare était malade, un malheur. Lazare, il a été mourant, il a été dans l'agonie, mais on est allé vers Jésus en disant, Seigneur, celui que tu aimes, c'est beau, je trouve ça magnifique, celui que tu aimes est malade. Donc Béthanie, c'est une église qui est toujours là pour la prière, pour dire, Seigneur, un tel est malade, mais tu l'aimes et nous sommes là et nous l'aimons aussi. On ne se désintéresse pas, voilà. Béthanie, il faut que notre maison soit Béthanie, que le Seigneur puisse compter sur nous, puisse compter sur un Ananias qui ira chercher quelqu'un qui vient de se convertir comme l'apôtre Paul, ou qui ira comme Philippe sur le chemin de Gaza pour aller évangéliser un ministre éthiopien. Je ne serais pas contre d'aller évangéliser le ministre des Finances. Pas vous ? une église, une maison où il y a des phobés. Il y a des gens comme phobés qui étaient diaconesses. C'était pas de l'apparence, c'était pas des gens qui faisaient semblant, c'était des gens actifs dans l'église. C'est ça, Béthanie. Il y a des phobés comme la diaconesse, il y a des Ananias, il y a des Philippe, il y a des bons samaritains, il y a de la fraternité, du dévouement. Une telle église, mes amis, c'est une menace pour le règne de Satan. Amen. Puisque le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pas n'importe quelle église. Une église bien établie dans la foi, la charité, l'espérance, qui travaille pour l'avenir, pour son avenir et l'avenir de Dieu. Cette église-là, elle met en échec le diable. Moi, je dis amen. Pour cela, il faut que notre maison, vous, avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos frères et sœurs, l'Église, nous puissions avoir une communion de Béthanie. Il ne faut pas laisser le Seigneur seul. Jésus, il a un jour dit à ses apôtres, « L'heure est venue où vous me laisserez seul. » Je trouve cette parole très triste. « Vous me laisserez tout seul. » Les apôtres disent, « Non, jamais, jamais, on ne pourra jamais faire ça. » Mais ils l'ont fait. Il faut qu'on soit avec le Seigneur dans ses épreuves. Les épreuves du monde, ce sont ses épreuves. Il faut qu'on soit des ouvriers avec lui. Il faut qu'on bâtisse une maison solide sur sa parole, sur les fondations, qu'il y ait bien une bonne coordination, une maison de prière. La maison solide, c'est une maison de prière. Alors il faut travailler à tout cela. Il faut être au culte. Il ne faut pas qu'un service de l'Église nous empêche de venir au culte. Ça peut arriver. Hein. On est tellement pris par, c'est comme Marthe, hein, tellement pris par sa cuisine qu'elle n'a pas reçu vraiment le Seigneur dans son cœur, elle n'a pas écouté, elle n'était pas au culte. Elle était toujours occupée ailleurs. Il y a des services de l'Église qui peuvent accaparer nos enfants et qui ne pourraient plus venir au culte. Faire attention à tout. Les enfants, faut que les parents fassent attention. Responsables de l'Église. Bon, je passe au deuxième point. Recevoir Jésus. Deuxième point, persister à écouter sa parole. Persister, parce que c'est le mot en grec. Marie persistait à écouter sa parole. Elle était assise aux pieds de Jésus et Marthe qui était avec son omelette, et puis son gâteau, et puis la salade, et puis ça ne te fait-il de rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir ? Marie persistait. À Jérusalem, dans la première église, il y a un mot magnifique qui revient, c'est le mot persévérance. L'église de Jérusalem persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je pense que c'est la définition de l'église. Moi, je le crois. Moi, je crois que c'est la définition de la famille chrétienne. Elle persiste à garder la parole. C'est une définition. Il faut retrouver la valeur du mot persévérer, persister, parce que ce sera l'une des plus grandes faiblesses de l'Église de la fin du monde. Il faut apprendre à produire du fruit, dit Jésus, avec persévérance. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ça soit dans la maturité, pas simplement un coup de tête, un coup de cœur. Il faut que ce soit un fruit qui mûrisse, qui va toujours de l'avant. Parce que, vous savez, sans la persévérance, on peut écouter un enseignement. Comme ce matin, en garder plus ou moins un souvenir. Il y a des frères et sœurs qui achètent le CD tous les dimanches pour le repasser. Et puis après, on peut l'oublier. On peut être un auditeur oublieux, disait l'apôtre Jacques, un auditeur qui regarde et puis qui oublie. La semence tombe et hop, elle tombe à côté. On sort d'ici, on repense au match de l'équipe de Rennes, on repense à son week-end, on repense au beau soleil, et puis hop, la semence, elle est oubliée. La semence est tombée à côté. Une église Béthanie, une maison Béthanie, on veut recevoir tout ce que dit le Seigneur. C'est sérieux. C'est très sérieux. Persister, ça veut dire, Seigneur, On va vivre cette vérité. Cette vérité que tu nous dis dans ta parole ce matin avant d'aller au travail, cette vérité que tu nous as laissée dimanche matin, que tu nous as laissée dimanche après-midi, on va la vivre aujourd'hui. On va se mettre à l'œuvre. On va travailler avec ça. Il y en a qui pensent que les œuvres, c'est le travail des mains. Il dit quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Mais l'œuvre, c'est travailler son cœur. Travailler à votre salut. Retenez. Laissez la parole prendre racine. Si vous ne l'arrosez pas, elle va crever très vite. C'est une priorité. Eh bien, voilà, à Béthanie, Marie était tout entière à écouter la parole et elle a oublié d'aider sa sœur. C'est pas gentil quand même. Sa sœur, la vaisselle, mettre la table, le chemin de table, la décoration. Elle a oublié. Vous savez, quand les foules écoutaient Jésus, elles oubliaient de manger. Il m'est arrivé de ne pas manger tellement j'étais occupé par le Seigneur. Et vous? Peut-être pas. Parce qu'il nous prend, le Seigneur. Il nous accapare. On vit avec lui. C'est notre vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Je me suis posé la question, que se passerait-il si nous gardions chaque parcelle de vérité reçue dans vos maisons, si vous lisez la Bible, mais j'espère, reçue dans vos maisons ou reçue dans l'Église. Si nous gardions chaque parcelle de vérité, si nous la mettions bien en travail dans notre vie. À tous les baptisés, je leur pose la question, quand vous écoutez la prédication, quand vous lisez l'Évangile, est-ce que vous avez changé quelque chose à votre vie ? Alors, pratiquement tous me disent oui. Quand vous écoutez l'Évangile, d'une façon ou d'une autre, est-ce que votre cœur a été touché ou vous êtes distrait, plongé dans je ne sais pas quoi ? Est-ce que votre cœur est touché ? Je leur pose toujours la question pour m'assurer qu'ils sont bien en communion, en écoute, comme Marie, au pied de Jésus. Que se passerait-il si on gardait tout ? Le garder, je veux dire, pas sur un CD, mais dans la vie. Vous le savez bien, ce n'est pas pour vous décourager, ni moi, je ne veux pas me décourager non plus. Nous savons bien qu'il y a des graines de vérité qui tombent à côté. On ne peut pas tout retenir, et puis parfois ça tombe dans les soucis. Ça tombe dans les épines, ça tombe dans les pierres, on a un cœur dur, on s'est endurci avec le temps, on a décidé de s'endurcir parfois, c'est vrai. Alors, l'Évangile tombe dans un mauvais cœur. Et tout cela est bien fait qu'on n'écoute pas comme Marie était au pied de Jésus. On dit « Seigneur, Seigneur !» On l'invoque, mais on ne le laisse pas nous appeler. Lui, il nous dit « Pratique les commandements !» Celui qui pratique les commandements, sa maison est très solide. Son église est solide. Si on n'écoute pas l'Évangile, on va ignorer plein de choses. J'aime cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean. Vous connaîtrez que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et ça, on le sait parce qu'on découvre l'Évangile. Et on voit que dans notre vie, le Seigneur, oui, il est présent. Et nous sommes en lui, on n'est pas perdu, on passe des tempêtes, des tourmentes. Parfois ça va très mal dans la famille, mais le Seigneur est là, on est en lui, il est en nous. Amen. Vous connaîtrez ces choses-là. On a besoin de la parole pour se nettoyer aussi. La parole est tranchante comme une épée. Pour reprendre l'expression biblique de Hébreux, chapitre 4, elle pénètre jusqu'à la moelle des os. Ça veut dire qu'elle pénètre là où personne ne peut pénétrer. Dans les sentiments mystérieux, les sentiments mauvais, dans les pensées impures, dans là où vraiment il se passe des choses que personne ne sait, même pas le pasteur, même pas votre femme, même pas votre mari. Mais la parole de Dieu, elle est vraiment tranchante. Elle n'est pas là pour couper, faire du mal, elle est là pour retirer le mal. Elle est là pour opérer. Elle est là pour ne pas que vous gardiez un cancer de l'âme qui va vous empêcher d'avancer dans toutes vos relations avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais que nous parlions d'un troisième point. Dieu est un Dieu d'ordre. On le voit bien. Hier, je passais, pour aller à la chapelle, je passais sur les bords de la Vilaine et on a mis des magnifiques pots de fleurs partout, vous savez. Je voyais ces fleurs, je ne m'arrêtais pas à chaque fleur, je passais, mais comme ça se répétait, je pouvais toujours recommencer de regarder. Je voyais la beauté, la variété, la finesse, c'est magnifique. C'est de l'ordre, ça c'est l'imagination de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Marie, en grec, c'est tiraillée, elle est tirée. Elle est en train de travailler angoissée. Parce qu'elle a 12 apôtres. Quand on invite Jésus, il y en a 12 qui suivent, attention. On ne peut pas dire, je voudrais avoir une petite intimité avec toi ce soir. Nous sommes 13. Mais rassurez-vous, ça porte bonheur quand même, 13. Alors Marie, Marthe, elle est vraiment débordée. Et puis elle ne va pas dire à sa sœur, viens m'aider, elle va accuser Jésus. C'est lui le responsable. Il a pris ma sœur, il a pris mon mari, il a pris mes enfants, il a pris ma femme, je ne sais pas. C'est lui le responsable. Alors elle dit à Jésus, pas trop gentiment quand même, puisqu'elle t'écoute, dis-lui de m'aider. Ou arrête de lui parler. Remets de l'ordre. Oui, Jésus va remettre de l'ordre. Parce que le repas de Marthe est un peu disproportionné. Il y avait la grande assiette, la petite, la moyenne, la soucoupe, la tasse, 4 cuillères d'un côté, 4 cuillères de l'autre. C'était un peu trop disproportionné. Jésus, il ne demande pas des détails comme ça. Et les choses importantes étaient négligées. Dans les détails qui sont très forts et même très tyranniques, mais les choses importantes de la fraternité, de l'amitié sont négligées, du bonjour, du bonsoir sont négligées. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Amen. Jésus nous montre là ce qu'il attend de nous. Tant que nous pouvons, tant que nous sommes maîtres des choses, ne permettons pas que les choses provisoires, passagères, chose que demain on n'aura même plus besoin, que ces choses-là nous accaparent au point que les choses de Dieu sont éclipsées. Éclipsées. On n'a plus le temps pour Dieu. C'est comme cet homme dans une pièce de théâtre de Ionesco qui avait acheté des chaises, qui mettait chez lui une chaise, deux chaises, trois chaises. Il avait la passion des chaises. Oh, il mettait 30, 40, 50, 60. Il y avait tellement de chaises chez lui qu'il ne pouvait plus rentrer chez lui. Donc il était dehors. Il y avait tellement de choses chez lui. Faisons attention au désordre de la maison, au désordre des choses dans notre tête, partout, qui pourraient éclipser le temps disponible pour le Seigneur. Parle, Seigneur, je t'écoute, comme Samuel. Je pense que la parole de Dieu, si nous l'écoutons, si nous la lisons, parce qu'il faut la lire, elle est capable de réguler la vie. Cherchez premièrement. Ne vous inquiétez de rien. Non ? Quand on voit cet homme qui avait une belle moisson, une belle récolte, qui avait vraiment gagné, et qui dit, je vais détruire mes greniers, j'en ferai encore d'autres, il arrive à la fin de sa vie, et puis j'en ferai encore d'autres, et encore d'autres. Eh bien, Jésus a dit, eh bien, cet homme, il n'était pas riche pour Dieu. Il n'avait pas de temps pour Dieu. Et il a tout perdu. Alors, nous devons écouter tout l'enseignement du Seigneur sur les choses matérielles, sur les choses secondaires. Nous ne devons pas nous laisser tiraillé par les choses de la terre, au point que la lumière de l'évangile est sous le boisseau, elle est sous le seau, elle est sous le lit, elle ne brille plus. Jésus ne dévalorise pas un bon repas. Jésus ne dévalorise pas le travail, évidemment. Mais rappelez-vous, Jésus a 12 ans. Quel enfant précoce. Non, il était humain comme nous, hein. Mais quand même, il avait une conscience. Je me souviens que depuis mon âge de 7 ans, j'avais cette conscience de Dieu. Ben lui, il avait la plus forte raison. Il a fait passer les affaires de son père en premier. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que Dieu veut que nous créions en nous une lucidité, une maturité, un discernement sur les choses qui vont passer, un discernement sur les choses les meilleures, être riche pour Dieu. On a besoin d'enseignement. Jésus veut nous montrer la place d'honneur que nous devons lui donner. Pas 2 minutes par jour. Je pense qu'il faut que notre cœur soit préoccupé de lui. À quoi servirait-il de gagner le monde? De gagner encore et encore et encore et toujours. Si tu en venais à perdre ton âme, je ne vais pas dire perdre ton âme dans l'enfer forcément, mais perdre ton âme par rapport à ce que Dieu veut te donner sur la terre. Ton sac était tellement plein que je n'ai pas pu mettre une parole de Dieu. Voilà ce qu'il va nous dire. Sachons donc discerner la marche du Seigneur pour nous. Sachons discerner ce Samuel qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, cet enfant qui était dans le temple jour et nuit. » Que Dieu nous donne de discerner la priorité de nos maisons. Bien sûr, l'ordinateur dernier cri, la télé dernier cri, mais je ne vais pas vous dire la Bible dernier cri. Hein. La Bible, c'est le vieux cri, c'est l'ancien cri, c'est le cri de Dieu. Mais cette parole doit être avant les nouvelles, les nouveautés. Tout ce qui fait que si on n'a pas ça, on se sent méprisé, on se sent arriéré, tout ça. Il faut jeter toute la mentalité du monde. Aujourd'hui, elle nous empeste l'air. Il faut dire Seigneur, Messire Dieu, premier servi, disait Jeanne d'Arc. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un dernier point, servir et adorer. Là, on arrive après la résurrection de Lazare. Encore Béthanie. Encore Marthe. Elle sert toujours, mais là, tout est dans l'ordre. On n'est plus tiraillé parce que sa sœur aussi doit l'aider. Il n'a pas l'anxiété, il n'a pas l'angoisse. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis dans la maison, il y a, comment vous dire, une atmosphère de résurrection. Vous ne trouvez pas ? Lazare vient de ressusciter. Je sens que la maison, elle est pleine de joie, pleine de fête. Tout le monde a un petit chant sur les lèvres. Oh, Lazare est ressuscité. Oh, mon petit Lazare, oh, tu sentais mauvais. C'était affreux. Enfin, on va pas parler encore de ça, hein, quand même. On ne va pas parler de ça jusqu'à ta mort prochaine. Mais quand même, quelle beauté dans cette maison de Béthanie. Et puis Marie qui avait chez elle un flacon de parfum qui équivalait à peu près à 8 ou 10 mois de salaire, hein, quand même. Vous me direz après votre salaire pour que je calcule, multiplié par 10. Rien n'est coûteux pour Marie. Elle est folle, Marie. Vous l'auriez traité de folle. Judas l'a fait avant vous et le diable aussi, attention. Marie et Marthe offrent à Jésus une reconnaissance pour leur petit frère Lazare et une adoration. Je vais vous dire un secret. Vous pouvez le répéter, tant pis. Notre adoration dépend de la manière dont, de ce que Jésus représente pour nous. Notre service dépend de ce que Jésus représente pour nous, de ce que l'Église représente pour nous. Si l'Église, c'est pas grand-chose, on donnera rien. 0,0. Mais pour Marthe, rien n'est trop précieux. Vous êtes Marthe, vous êtes Marie, je suis Lazare, nous sommes tous Marie, Marthe et Lazare. Faites attention, frères et sœurs. Le diable est aux aguets quand on fait quelque chose pour lui. Et si j'avais la liberté et le temps, mais faut aussi beaucoup d'humilité pour vous dire tout ce que le diable a fait contre moi, mais contre beaucoup d'autres aussi. Quand on veut faire quelque chose, le diable aussi veut faire quelque chose. Et le diable, par Judas, il avait un bon serviteur, là, quand même, hein. Pas mal. Il a dit, on aurait pu vendre ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres. Autrement dit, Jésus ne méritait pas ça. Ça ne valait pas le coup. Le diable est jaloux de ce qu'on donne au Seigneur. Il le voudrait pour lui. Il voudrait que vous lui donniez beaucoup de temps, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'attention, que vous fassiez comme les choses du monde. Il voudrait vous accaparer. Il voudrait que vous soyez serviteur de mammon. Il aimerait prendre pour lui ce que vous donnez si bien à Dieu ou ce que vous ne donnez pas, je ne sais pas. Le diable va s'efforcer de détruire les élans de service dans l'Église, les élans d'adoration. Et aussi dans nos familles. Il va essayer de dérober, essayer de nous accaparer, de nous prendre, de nous emprisonner, de nous opprimer pour qu'on n'ait plus rien à donner à Jésus. Pas une goutte de parfum. Voilà encore une définition pour l'Église et la famille. Un lieu où l'on apporte à Jésus ce qui lui revient. Parce qu'on considère qu'il le mérite. J'ai beaucoup aimé, je terminerai là, la parole de Jésus pour cette Marie qui était méprisée. Même les apôtres, ils ont murmuré, tous. C'est Judas qui a pris la parole. Il n'y en a qu'un qui parle dans l'histoire, là. Il n'y en a qu'un qui parle, c'est Judas. Il a pris la parole en disant, on aurait pu faire mieux, on aurait pu le donner aux pauvres. Et Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle a gardé ce parfum pour la sépulture. Ce qui veut dire qu'elle va entrer dans l'histoire de Pâques. Mais ils ne savent pas, les autres, il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils ne savent pas que dans quelques jours, Jésus va être sur la croix, dans le tombeau. Et elle a d'avance mis le parfum qu'on mettait sur les morts. Et je l'ai dit dimanche dernier à la prédication d'évangélisation, ce parfum, elle ne l'a pas mis sur Lazare. Elle aurait pu dire, notre frère est mort, on va faire un sacrifice. Quand il y a un deuil, souvent on met des beaux cercueils, beaucoup de fleurs, beaucoup de plaques. Il y a un élan du cœur, on donne, on ne compte plus. Et Marie, elle n'a pas donné son parfum, elle l'avait chez elle. Elle ne l'a pas mis sur le corps de son frère. Et son frère, au bout de 3-4 jours, il empestait, il sentait la mort. Mystérieux. Mais justement, elle ne savait pas que Jésus irait chez eux après. Elle a mis ce parfum sur le corps de Jésus. Laisse les morts enterrer leurs morts. Oui, c'est vrai. Occupons-nous des vivants et occupons-nous de Jésus. Elle a oint son corps. En général, c'est Dieu qui oint. On oint les rois, les prophètes. Marie a oint le corps de Jésus. Eh bien, mes amis, je souhaiterais que nous ayons vis-à-vis de Jésus et de son Église une nouvelle appréciation. Que nous ayons vis-à-vis de Jésus une adoration à la hauteur de ce qu'il est pour chacun. Amen. Avec des gestes d'amour concrets, des gestes qui sont parfois des sacrifices. On n'aime pas le sacrifice. Il ne faut pas que ça nous coûte. S'il me reste du temps, voyez-vous. Il faut dire, j'ai du temps, mais je le sacrifie. Des gestes de sacrifice qui coûtent pour les répandre dans l'Église, afin que dans l'Église, ça sente bon. Amen. On avait offert à Jésus un spectacle affreux, terrible, Lazare dans son tombeau qui sentait la mort. Là, on offre à Jésus le parfum de l'amour, de la reconnaissance, de l'action de grâce. Amen. Seigneur, fais de nos maisons des Béthanies. Vous êtes d'accord avec moi ? Et fais de l'Église une magnifique Béthanie où tu seras toujours chez toi. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous donner toujours, d'avoir une porte ouverte, un cœur comme une table bien disposée, et que tu puisses trouver en nous une oreille toujours attentive. Oui, nous voulons te recevoir. Plus que quelques minutes par semaine, Oui, nous voulons persister à écouter ta parole. Nous voulons travailler notre cœur. Oui, Seigneur, nous voulons mettre les priorités, toi la priorité. Chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est toi le royaume, c'est toi le roi. Et puis nous voulons t'offrir un service de louange et de gloire, une reconnaissance qui coûte, qui nous oblige à de la dépense, mais qui t'honore, parce que tu nous as ressuscités. Amen. Tu n'as pas seulement ressuscité Lazare, tu m'as ressuscité, moi, mais aussi mes frères et sœurs. Et nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Amen.